émission spéciale sur RFI. Juan Gomez.
Et jusqu'à 11h, heure de Paris, RFI vous donne la parole. Vos réactions après les attaques qui ont ensanglanté vendredi soir Paris et Saint-Denis. Vos réactions, vos questions également. À mes côtés, Guilhem Delteil du Service France, David Thompson, spécialiste du djihadisme, et Olivier Four, spécialiste des questions militaires, défense. Trois confrères de la rédaction d'RFI pour essayer de mieux vous expliquer ce qui s'est passé à Paris. David Thompson, juste avant le journal, vous nous expliquiez pourquoi la France était l'un des pays les plus exposés à la menace djihadiste, et l'une des raisons, c'est le nombre important de combattants français qui ont rejoint les rangs de l'organisation de l'État islamique.
Absolument. La dernière raison que j'allais évoquer, c'est effectivement ce constat qui est très simple, qui est simplement factuel et numérique. En Europe, le pays qui compte le plus grand nombre de ressortissants actuellement en Syrie et en Irak, et en particulier au sein de l'État islamique, c'est la France. Sur place, on tourne autour, selon les estimations officielles, de 500 ressortissants sur place, avec environ un quart de femmes. Et ce qu'on constate, c'est que malgré l'intervention occidentale, malgré les politiques qui tentent d'être menées pour reprendre la terminologie officielle du ministère de l'Intérieur, déradicaliser ou faire de la prévention, ça ne marche pas et les gens sont de plus en plus nombreux à partir. Juste un chiffre pour finir, 10 Français partent encore chaque semaine en moyenne en Syrie, en Irak aujourd'hui.
Basri, à Bamako, vous avez une autre question ?
Tout à fait. Que se font des assaillants qui sont derrière ces attaques ? Sont-ils connus des services de renseignement et quels sont leurs profils ?
Alors, Guilhem Delteil, on sait un peu plus sur les assaillants, les terroristes. On sait que, en tout cas, trois d'entre eux ont été formellement identifiés.
Oui, le premier dès samedi, il s'agit d'Omar Ismail Mostefaï. En fait, c'est l'un des kamikazes qui s'est fait exploser au Bataclan. Ses empreintes, en fait, ont permis de l'identifier assez rapidement. Il était tout d'abord connu pour des crimes de droit commun, des petits délits, en fait. Mais il avait quand même fait l'objet d'une fiche S pour Sûreté de l'État, comme 11 500 personnes en France.
On va y revenir d'ailleurs sur cette fameuse fiche S qui suscite beaucoup de réactions et de questions au standard. Donc l'un des meurtriers du Bataclan a été identifié très rapidement samedi. Puis il y a d'autres noms qui sont apparus.
Et le parquet a annoncé effectivement hier dans la soirée que deux autres des kamikazes avaient été identifiés. Il s'agit de Bilal Hadfi. Lui s'est fait exploser devant le stade de France. Il s'agit d'un Français qui vivait en Belgique. Et puis enfin Brahim Abdeslam qui s'est fait exploser sur le boulevard Voltaire devant un café. Abdeslam, un nom d'ailleurs qui revient avec insistance dans cette enquête, puisque son frère est activement recherché aussi.
Son frère, dit-on, serait le cerveau des attaques de vendredi soir à Paris et à Saint-Denis.
C'est peut-être un peu tôt pour le définir véritablement comme cerveau, mais effectivement, il semblait être au cœur de l'organisation de ces attaques. Il avait loué en son nom l'une des voitures retrouvées, en l'occurrence celle retrouvée devant le Bataclan. Brahim avait loué l'autre, celle qui a été retrouvée à Montreuil avec des Kalachnikov. Effectivement, c'est l'homme qui est le plus activement recherché aujourd'hui dans cette enquête. Enfin, en tout cas, en tant que personne identifiée, car il y a aussi une personne qui intrigue beaucoup les services, les forces de l'ordre aujourd'hui, c'est l'artificier qui est la personne qui a fabriqué ces vestes bourrées d'explosifs qu'ont activé les kamikazes. D'après les spécialistes, il est peu probable qu'il ait été dans les kamikazes, parce que c'est vrai que cette compétence d'artificier est une compétence assez rare, assez prisée du coup par les groupes terroristes, et qu'il est rare que ces artificiers soient envoyés eux-mêmes dans des opérations suicides.
Allez, David Thompson, l'un des kamikazes du Bataclan était connu des services de police, il était fiché. La fiche S, ça signifie quoi, nous demande Zappa Ouagadougou et d'autres auditeurs. Concrètement, comment ces personnes qui font l'objet d'une fiche S sont-elles surveillées ?
La fiche S, ça ne signifie pas grand-chose. La fiche S, ça signifie que la personne a été signalée à un moment de sa vie comme étant de près ou de loin concernée ou membre d'un milieu djihadiste. Ça veut dire que la personne est fichée. Dire que la personne est fichée, ça ne veut pas dire que la personne est surveillée. Il y a à peu près 3000 personnes aujourd'hui en France qui font partie des milieux djihadistes qui ont cette fiche S. Il est impossible aujourd'hui pour les services de renseignement français de surveiller 24 heures sur 24, que ce soit physiquement ou même d'un point de vue technique, hein, surveillance téléphonique, surveillance des échanges électroniques, de surveiller l'ensemble de ces personnes. Donc la réalité, elle est ainsi. C'est pas parce que les gens sont connus, dans la plupart des cas, lorsqu'il y a une attaque ou une tentative d'attaque, les personnes ne sont pas inconnues, dans la plupart des cas, mais pas dans tous les cas. Et ça ne veut pas dire que c'est pas parce que la personne est connue, fichée, qu'elle n'est pas en mesure de mener une opération en France.
Dilem Deltaï.
Oui, difficile surveillance aussi d'un point de vue humain. On estime à peu près à 20 le nombre de personnes nécessaires pour surveiller une personne 24 heures sur 24, 365 jours par an. 20 policiers, 20 agents des renseignements pour une personne, cela fait en effet beaucoup. Alors David évoquait ce chiffre effectivement de 3000 et quelques personnes surveillées pour leur lien ou faisant l'objet d'une fiche S pour leur lien avec des groupes djihadistes. 11 500 fiches S en tout. Faut savoir que les fiches S ça regroupe d'autres personnes aussi, c'est notamment un certain nombre d'activistes qui pourraient se retrouver ailleurs sur l'échiquier politique que dans le rang d'organisations djihadistes. Donc c'est effectivement un chiffre très très conséquent.
Et ce sont des personnes qui ne se trouvent pas forcément et nécessairement en France.
Non,
ce sont aussi des gens qui n'ont pas forcément la nationalité française également. On va repasser au standard, au 33 9 693 693 70. Bonjour Callot.
Bonjour Rowan.
Nous vous écoutons, vous nous appelez de Guinée.
Merci beaucoup. D'abord, je dis bonjour les rois du monde et je présente réellement mes compassions au peuple français. Et d'ailleurs, je suis à Paris ce matin.
Merci. Merci, Callot. On vous écoute, vos questions.
Merci beaucoup. Alors, j'ai deux questions à poser ce matin. La première est de savoir pourquoi cette contradiction entre deux communiqués, le communiqué venant du procureur de Paris et celui de l'État islamique, par rapport au nombre des assaillants ayant participé à ces attentats de Paris.
Alors, le procureur de la République a annoncé 7 morts parmi les terroristes. L'organisation de l'État islamique parle de 8. Comment expliquer cette différence, Guillaume Deltaï?
Le chiffre de 8, c'est celui qui avait été évoqué aussi vendredi dans la nuit de vendredi à samedi ou samedi matin tôt. C'est on pensait effectivement que 8 personnes s'étaient fait exploser. Est-ce que l'organisation de l'État islamique a voulu calquer son communiqué sur les informations qui circulaient à ce moment-là avant que le procureur de la République ne fasse sa conférence de presse? La conférence de presse a eu lieu à peu près 7 heures après la publication du communiqué de l'État islamique.
Est-ce que l'État islamique savait exactement le nombre de personnes qui participaient à ces différentes attaques, les différents commandos, David Thompson?
La question est posée, effectivement, comme vient de le dire Guilhem, est-ce que ce communiqué a été écrit en fonction des informations qui étaient publiques, diffusées par les médias au moment, juste après les attentats, puisque c'est vrai que le chiffre de 8 était évoqué. Est-ce que c'est parce que 8 membres de ce commando étaient vraiment au nombre de 8 et que l'un d'entre eux a peut-être flanché, raté son opération et qu'il est aujourd'hui en fuite? Aujourd'hui, personne n'est en mesure de répondre à cette question avec certitude.
Callot, vous avez une autre question, je crois.
Ok. Tout à fait, M. Wan. La deuxième question est de savoir, y a-t-il pas un lien entre l'État islamique et l'État belge aujourd'hui, sachant que ces assaillants-là sont venus de la Belgique, et tout en empruntant des véhicules immatriculés belges?
Alors, la Belgique, la filière, la piste belge, effectivement, est de plus en plus évoquée. Guilhem Deltaï, la Belgique, où effectivement deux voitures au moins ont été louées pour mener ces opérations. Ces attaques.
Deux voitures ont effectivement été louées en Belgique et ont servi à mener ces attaques. Elles ont toutes deux été retrouvées, alors l'une devant le Bataclan, donc l'un des lieux des attentats de vendredi, l'autre à Montreuil, qui est une commune qui jouxte Paris, qui est pas très loin d'ailleurs du côté à la sortie de Paris, du côté 10e et 11e arrondissement. Ces deux voitures ont été retrouvées. L'une avait encore des Kalachnikov à l'intérieur. On sait que sur les trois ou quatre, si on inclut la personne activement recherchée, Salah Abdeslam, qui ne faisait pas partie des kamikazes, mais qui était donc l'un des conducteurs, enfin qui avait loué l'une de ces voitures et qui est activement recherché actuellement. Donc quatre personnes, a priori, ont été identifiées actuellement. Et sur ces quatre personnes, il s'agit de quatre Français, mais trois d'entre eux vivaient en Belgique. Des perquisitions ont été menées en Belgique aussi, dans une commune de Bruxelles, qui était déjà apparue d'ailleurs dans un certain nombre de dossiers djihadistes. On sait qu'il y a un petit foyer d'islam radical
à Molenbeek.
À Molenbeek, exactement, dans cette commune-là. C'est là qu'avait séjourné aussi le tireur du Thalys, chez sa sœur, avant de monter dans le train. Donc l'enquête, effectivement, semble beaucoup se concentrer sur la Belgique. C'est peut-être la base arrière qu'aurait eu ces assaillants de vendredi en Europe, puisque certains ont été en Syrie. Ça, on commence à le savoir. On n'a pas le profil de tout le monde non plus. C'est difficile de tirer des généralités. Là, on parle de quatre personnes identifiées, dont trois des kamikazes. Il y en a encore quatre dont on ne sait rien pour l'instant. Il y a cette question aussi du passeport syrien qui avait été retrouvé.
On va y revenir. On a des questions, effectivement, sur ce passeport retrouvé.
Donc il y a encore beaucoup de questions. C'est difficile de véritablement répondre. Mais c'est sûr que la Belgique est aujourd'hui au cœur de l'enquête judiciaire. Le ministre de l'Intérieur belge est d'ailleurs venu rencontrer le ministre français de l'Intérieur hier à Paris. Les deux hommes ont voulu afficher leur parfaite entente, leur coopération sur ces dossiers-là, pour bien montrer que l'enquête avançait à grands pas.
Et David Thompson, la Belgique a renforcé sa législation antiterroriste ces dernières années. À l'instant, Guilhem Deltey disait que plusieurs des auteurs d'attentats de ces dernières années ont séjourné dans ce quartier populaire proche de Bruxelles, le quartier de Molenbeek. On peut rappeler que les assassins du commandant Massoud en Afghanistan ont séjourné sur place au début des années 2000, tout comme Hassan El Asri qui a conçu les attentats de Madrid en 2004, et d'autres encore, notamment le principal suspect de l'attentat au musée juif de Bruxelles en mai 2014. Comment se fait-il que, malgré cette législation renforcée, la Belgique apparaisse aujourd'hui, mine de rien, comme un sanctuaire pour les islamistes radicaux en Europe?
Alors un sanctuaire, je dirais pas ça, mais une place forte, c'est indéniable, une place forte historique, vous l'avez dit. Les membres du commando qui ont préparé l'assassinat du commandant Massoud deux jours avant le 11 septembre, qui était un groupe de djihadistes tunisiens, qui étaient des lieutenants de Ben Laden en Europe, étaient effectivement basés en Belgique, qui ont ensuite eu une trajectoire très importante et un rôle dans le djihad actuel également. Il faut voir que entre les djihadistes français et les djihadistes belges francophones, il y a une totale interdépendance. C'est-à-dire qu'en Syrie, ces gens-là, en raison de leur langue commune, tout simplement, combattent dans les mêmes brigades. Donc il n'y a pas de distinction entre français et belges francophones. Ce sont les mêmes éléments qui se connaissent, qui vivent ensemble là-bas en Syrie, en Irak, au sein de l'État islamique. En France et en Belgique, il faut savoir que la Belgique est le pays proportionnellement à sa population le plus touché en Europe par ce phénomène djihadiste. Et en fait, la différence avec la France, c'est qu'en Belgique, il y a eu une organisation qui s'appelle Sharia for Belgium et qui a eu les mains libres, parce que la législation n'était pas la même en France qu'en Belgique en termes de liberté d'expression, qui a pu prêcher un islam djihadiste. Et aujourd'hui, tout tourne autour de cette organisation Sharia for Belgium. La plupart des djihadistes belges sont connectés directement ou indirectement à cette organisation. Donc ça, c'est la grande différence avec la France, puisqu'en France, il y a eu une organisation du MTI qui s'appelait Force Analisa, mais cette organisation a été dissoute tout de suite après l'affaire Mera, donc elle n'a pas eu l'impact qu'a eu Sharia for Belgium en Belgique.
Nous repassons au standard au 33 9 693 693 70. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour Rouen.
Bienvenue, vous nous appelez du Cameroun.
Oui, effectivement Rouen, je vous appelle du Cameroun depuis Crédit.
On vous écoute.
Alors, oui, a priori Rouen, les attaques de vendredi sur la ville de Paris sont liées à l'intervention de l'armée française contre la position de Daesh en Syrie et en Irak. Alors, au vu de la situation qui prévaut à l'heure actuelle en France, Rouen, peut-on s'attendre à une évolution de la politique française sur les dossiers syriens et irakiens?
Alors, Olivier Four, spécialiste des questions défense, la France a déjà riposté. Elle a riposté hier soir. Une vingtaine de bombes ont été larguées dans le nord de la Syrie, à Raqqa, le fief de l'organisation de l'État islamique. Est-ce que c'est un tournant
Alors pour l'instant, il n'y a pas réellement de changement de la politique française sur le dossier syrien et sur le dossier proche-oriental d'une manière générale. Ce qu'on constate effectivement depuis les attentats et donc depuis hier soir, c'est une accélération du rythme des frappes, en tout cas en volume, on l'a dit, une vingtaine de bombes tirées. Bon, c'est pas non plus un bombardement massif comme les Américains pouvaient le faire au Vietnam dans les années 70. Faut savoir raison garder. Mais effectivement, c'est le plus gros bombardement mené par l'aviation française depuis le début des frappes au-dessus de la Syrie le 27 septembre dernier. Alors la question c'est de savoir si la France va pouvoir maintenir ce rythme dans la durée ou si finalement ce n'était qu'un pas qu'un coup d'éclat, mais ce n'était qu'une réponse, qu'une riposte et qu'un message politique aussi à usage interne. La France a été frappée au cœur, c'est sa jeunesse qui a été frappée. Le président Hollande, message de fermeté, donne ordre aux militaires français d'aller riposter sur Raqqa. Des raids comme ceux qui ont été menés hier soir, la France ne pourrait pas en faire 3-4 fois par semaine.
Il y avait quand même 12 avions engagés dans les opérations d'hier soir, c'est quasiment la totalité des avions français.
C'est quasiment la totalité de ce qui est déployé actuellement dans la zone, c'est-à-dire en Jordanie et aux Émirats Arabes Unis. Et puis surtout, c'est pas tellement le nombre d'avions qui compte, c'est toute la logistique qui va derrière. C'est-à-dire que si vous voulez faire durer une opération, un petit peu comme ça s'était passé, souvenez-vous, ces campagnes aériennes très soutenues au Kosovo en 1999 et puis plus récemment en 2011 au-dessus de la Libye, eh bien il faut faire tourner les pilotes parce qu'il faut qu'ils puissent régénérer leur potentiel. Il faut faire aussi tourner les avions puisque à chaque fois qu'un avion fait une mission, quand il rentre, bah il faut le faire passer dans les mains des mécaniciens pour l'entretenir. Et puis il y a des choses qui manquent cruellement à la France et là ce sont plutôt les Américains qui sont amenés à les fournir, ce sont des ravitailleurs, des avions citernes qui permettent d'avoir l'allonge nécessaire pour mener ces raids puisque quand les avions partent notamment des Émirats Arabes Unis, il faut faire plusieurs ravitaillements en vol pour arriver jusque à la zone de confrontation. D'un point de vue tactique, est-ce que, vous savez, il y a eu tout le débat, est-ce qu'il faut envoyer des troupes au sol?
Oui. Alors ça, c'est une question qui revient souvent, d'autant qu'on l'a entendu dans la bouche de l'exécutif français, la France veut frapper encore plus fort en Syrie. Alors est-ce que ça passe par le déploiement de soldats sur le terrain?
Le déploiement de forces spéciales, peut-être. Ça n'a pas encore été précisé, ça le sera peut-être dans les heures qui viennent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un secret pour personne, il y a des forces françaises, des forces spéciales françaises en Irak qui participent notamment au renseignement et au ciblage, donc c'est-à-dire qui désignent les cibles aux avions de combat en appui. Très certainement, tout ça sous le sceau du secret, mais en appui aux forces irakiennes, voire aux Peshmerga. Est-ce que un dispositif comparable peut être mis en place en Syrie? C'est possible, les Américains y réfléchissent aussi. Vous savez, les Américains parlaient récemment d'appuyer ce qu'ils appellent la coalition arabe syrienne. C'est une alliance qui, d'après le Pentagone, rassemblerait 4 à 5 000 combattants dans le nord-est de la Syrie, où se trouvent d'ailleurs des bastions de l'EI, comme des résorts, comme Raqqa. Ce qui est clair, c'est que ces forces spéciales viennent systématiquement en appui de milices et de troupes de sol qui sont des troupes locales, que ce soit les Peshmerga, que ce soit des troupes opposées à l'EI, mais il s'agit pas d'un grand déploiement de fantassins, de plusieurs milliers d'hommes ou dizaines de milliers d'hommes qui iraient combattre rue par rue pour reprendre telle ou telle ville aux mains de l'EI. Ça, c'est inimaginable à l'heure actuelle.
Et sur un plan militaire, est-ce que la France peut se rapprocher de la Russie? La Russie qui mène des frappes en Syrie depuis maintenant un bon mois.
Alors, effectivement, dans la classe politique française, il y a des appels à se rapprocher de la Russie, de manière à ce qu'il n'y ait finalement qu'une seule coalition. Aujourd'hui, il y a une espèce de partage des eaux, on va dire, entre les Russes et les Syriens, et l'armée syrienne, donc l'armée de Bachar el-Assad, ou ce qu'il en reste, qui, eux, sont plutôt en train de s'attaquer à des cibles dans l'ouest du pays, protéger des villes comme Latakia, des villes comme Damas, et la coalition, et notamment cette coalition arabe syrienne dont les Américains parlaient récemment, qui elle agit plutôt vers l'est, vers le nord-est, donc à la frontière avec l'Irak. Donc pour l'instant, ce sont deux opérations distinctes, mais effectivement, ce sont des options qui pourraient être évaluées. Le problème, ça serait, c'est